maison. Nous offrons aussi le service de traiteur personnalisé. Laissez-nous faire de votre événement un festin inoubliable avec le restaurant Union Pacifique où la passion culinaire rencontre l'art de l'hospitalité. Réservez dès maintenant unionpacifique.com.
OX Plus Rimouski. Votre marchand local en électronique et informatique vous offre des téléviseurs Samsung et Sony en inventaire au meilleur prix du marché. Service d'installation à domicile disponible. Nous avons également des récepteurs Yamaha, Denon et Sony disponibles avec les excellents haut-parleurs Paradigm et Polk en démonstration. Vente et réparation d'ordinateurs portables et de bureaux. Également une section pour les gamers. Passez-nous voir au 150 Avenue Belle-Île ou au sonexplusrimouski.com.
Bonjour, ici David Molloy de chez Molloy Nettoyage. Vous êtes à la recherche d'une opportunité professionnelle enrichissante? Nous avons deux postes à combler, un de jour et un de soir. En tant que leader dans le domaine de l'entretien ménager, nous recherchons des personnes autonomes, minutieuses et motivées. Pour un travail sans pression, des salaires compétitifs et un REER collectif, info à commercial, molloynettoyage.com. Faites partie de notre équipe. Molloy Nettoyage, un choix brillant.
L'abus de plaisir n'est pas dangereux pour la santé. Découvrez tous nos produits érotiques pour couples dédiés aux amoureux et à la sensualité à deux. Huile, jouets, lingerie et plus. Partagez le plaisir. Sensationplus.com. Livraison rapide et discrète.
93.3.
Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé, votre point de repère.
Le Québec maintenant. 17h02, dans quelques instants, Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, sera avec nous. On va parler de ce campement pro-palestinien qui vient de voir le jour sur le campus de l'UQAM à Montréal. Et aussi, $1 milliard lié à des films liés à ArriveCan. Le gouvernement fédéral est en train de l'échapper sur toute la question de ArriveCan. Donc, M. Blanchet est avec nous dans quelques instants. Salut Valérie.
Salut Patrick.
Donc, la saison des feux de forêt a débuté avec force dans l'ouest du pays en fin de semaine.
Oui, par exemple, le feu de forêt qui menace la ville de Fort Nelson dans le nord de la Colombie-Britannique qui est à 1,5 km selon le maire. Les forts vents qui pourraient pousser les flammes dans la ville dès aujourd'hui. Les autorités prévoient que les 48 prochaines heures seront difficiles. Il y a d'autres évacuations qui ont d'ailleurs été ordonnées aujourd'hui. Pendant ce temps, au Québec, la surveillance est accrue. La ministre québécoise des Ressources naturelles et des forêts, Maïté Blanchette-Vizina, qui assure que des leçons ont été tirées de l'année dernière en rappelant que 45 millions de dollars ont été ajoutés au budget de la soupe-feu en vue de la prochaine saison estivale.
Ce qu'on peut contrôler, ben, faisons-le. Donc, la prévention, on a 3 millions qui a été ajouté uniquement pour ces campagnes de sensibilisation, de prévention qui sont débutées. On voit la soupe-feu régulièrement dans les médias ces temps-ci. C'est aussi pour s'assurer qu'on contrôle ce qu'on peut contrôler. Mais on a aussi ajouté des sommes pour embaucher des pompiers, former plus de pompiers auxiliaires, avoir des équipements supplémentaires. Donc, vraiment, on est prêts cette année.
Et 10 mois après le décès d'un père de famille, la Société de l'assurance automobile du Québec a envoyé à sa succession un avis pour renouveler son permis de conduire.
Oui, c'est ce que l'a appris aujourd'hui l'équipe de l'émission L'Effet Normando. Christiane Martel n'en revient toujours pas d'avoir reçu un avis de renouvellement et de paiement pour son père décédé en juillet dernier. Le permis avait pourtant déjà été annulé.
Surprise, parce que je m'attendais pas à ça, et de un. Si ça avait été adressé seulement au nom de mon père, bon, je me dis, OK, l'annulation n'a pas fonctionné. Mais là, c'est adressé à la succession de Jacques Martel. Là, je comprends pas comment est-ce qu'on peut renouveler un permis à une succession pour commencer. Pas un arriérage, là, c'est pour l'année qui vient, de 2024 à 2025. Mon papa, il est décédé, il ne conduira plus, là.
La SAC, qui n'a pas voulu commenter la situation sur les ondes de Cogeco, mais assure se pencher sur ce dossier.
Et il y a un suspect qui a été arrêté en lien avec le 10e homicide de l'année survenu hier dans l'arrondissement Plateau-Montréal à Montréal.
Oui, tôt hier matin, vers 5 heures, il y a eu signalement concernant la présence d'un homme ensanglanté et inconscient dans une ruelle située à proximité de l'intersection de l'avenue du Parc et de l'avenue du Mont-Royal Ouest. Le suspect, un homme de 22 ans, a été appréhendé dans le même secteur en fin de soirée hier. Il devait comparaître au Palais de justice de Montréal aujourd'hui pour y être accusé de meurtre au premier degré.
Merci Valérie, on va se retrouver un peu plus tard. Catherine, il y a une première histoire de MeToo d'envergure qui vient de sortir en France. Ça concerne le cinéma et c'est juste à la veille du Festival de Cannes.
Oui, et ça concerne Alain Sarde, qui est un producteur un peu comme la même envergure que Weinstein a pu l'être aux États-Unis. Ça a été le producteur de Godard, Téchiné, Bertrand Tavernier, Jacques Doyon. 50 films qu'il a produits ont été sélectionnés au Festival de Cannes en compétition officielle. Des gros films, tu sais, comme Mulholland Drive de David Lynch, Le pianiste de Polanski, des films de Nicole Garcia, Arnaud Desplechin. Et Thierry Frémaux disait que c'était un mythe du cinéma français, qu'il était un conteur formidable, un immense producteur.
C'est le patron du Festival de Cannes qui disait ça.
Donc, après 200 longs métrages, eh bien, il y a 9 femmes qui l'accusent de gestes allégués, entre autres, beaucoup de promotions canapées, d'agressions sexuelles, de viols dans les années 90 et 2000. Prenait souvent rendez-vous avec de jeunes actrices, leur promettait de devenir la prochaine star française, les amenait à la maison, leur offrait des chocolats, ça revient souvent, ça aussi, se jetait sur elles, les tripotait. Plusieurs disent avoir été violées. Donc, elles se sont réunies et finalement, cette enquête est tenue par le L France. Alors, c'est peut-être le début de plusieurs dénonciations pour le festival. Et les agents aussi embarqués là-dedans. Les filles, les actrices revenaient à leur agent en disant, mon Dieu, c'est qui ce gars-là? De quoi il se mêle? Pourquoi il se jette sur nous comme ça? Et les agents disaient, écoute, tu ne peux pas frustrer le plus grand producteur de France. Tu ne peux pas l'avoir contre toi.
Wow. Catherine, tu es libérée et tu ne seras pas avec nous physiquement pour les deux prochaines semaines parce que justement, tu t'en vas à Cannes et tu vas être là dans ta chronique de 15h35. Je te souhaite un excellent voyage.
Merci beaucoup. Je vous aime tous et on se revoit.
Et surtout, bon excédent de bagages. Je sais que tu pars là-bas avec... Tu as besoin de beaucoup de kits parce que...
J'ai des malles.
Juste c'est ça.
Tu vois, j'ai fait choper mes malles par bateau. Ils vont m'attendre là-bas quand je vais arriver. Voilà, c'est ça. Merci.
Merci, Cam. Bye. Bon voyage. Salut, Mika.
Salut, Pat.
Tu vas nous parler d'itinérance.
Oui, un petit peu, parce qu'il y a trois événements, voire articles qui ont capté mon attention aujourd'hui seulement. Puis je me suis dit, il faut qu'on parle d'itinérance, il faut qu'on réfléchisse là-dessus. On fait quoi avec ça? Mais c'est quoi notre réaction aussi par rapport à l'itinérance? Maxime Bergeron qui écrit un super bel article dans la presse d'aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, une mauvaise nouvelle, un itinérant qui a été poignardé sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Un itinérant qui se fait arroser pour le réveiller, pour le dégager.
Il dormait dans une entrée d'immeuble.
Exactement.
Parfait. Bonjour, Diane Lemieux.
Bonjour, Patrick.
Tantôt, tu vas nous parler de Gabriel Nadeau-Dubois. Il a des appuis quand même dans son parti.
Ben oui, on a vu une lettre ouverte aujourd'hui. Mais en fait, ce qui m'a intéressé depuis qu'il a lancé cet appel au pragmatisme, ça a suscité toutes sortes de réactions, toutes sortes d'analyses. Tu as fait une analyse quand même assez percutante aussi en fin de semaine. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été dites sur les défis de cette crise, mais c'est l'aspect humain dont je voudrais te reparler.
Très bien, tout ça dans quelques instants. Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
Tu vas nous parler du coût de la culture.
Oui, parce que Sophie Durocher fait un article comparant le salaire des artistes ou le revenu des artistes aux gérants, aux gestionnaires. Et j'avais mon grain de sel à mettre là-dessus. Et malgré tout, après tout ça, on va te parler des derniers flips. Tu as parlé de ça aujourd'hui. Je te dirais que l'immobilier communautaire, les pour et les contre, on en parle tant.
Parfait. Bonjour, Mme Beaudoin.
Bonjour, M. Lagacé.
On entre dans le dernier droit du procès criminel de M. Trump et aujourd'hui, c'est son ancien homme de main qui a témoigné, Michael Cohen.
Celui qu'on appelait son pitbull aussi, hein?
Oui.
Son fixer, donc un témoignage très attendu. Je te dirais que c'est le témoignage central de toute cette affaire, donc je te redonne les petits détails tantôt.
Très bien, parfait. Merci tout le monde. On se retrouve dans les prochains instants. Yves François Blanchet est de l'autre côté de la ritournelle.
Le Québec maintenant.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec maintenant.
Le Québec maintenant.
Avec Patrick Lagacé, votre point de repère.
Le Québec maintenant.
Le chef du Bloc québécois est au bout du fil. Monsieur Blanchet, bonjour.
Bien le bonjour.
Je veux qu'on va parler d'Arrive Cannes dans un instant, mais je veux qu'on parle de ce campement pro-palestinien qui a vu le jour à l'UQAM. Là, ça a été érigé en fin de semaine. Le Bloc a une position assez claire sur Israël. Mais là, sur le campement pro-palestinien à l'UQAM, vous avez fait une sortie aujourd'hui et j'aimerais ça que vous la résumiez pour commencer.
Essentiellement, il ne s'agit pas d'une position par rapport à être en faveur de la préservation de la vie des civils palestiniens. Ça, il n'y a pas de nuance de notre côté. Ou de l'accès à l'aide humanitaire à Gaza. Il n'y a pas de nuance non plus. Mais les camps qui se multiplient, en particulier sur les sites des universités, c'est pas des manifestations. Moi, la liberté d'opinion, la liberté de rassemblement, la liberté de manifestation dans l'espace public, avec un minimum d'encadrement parce qu'il le faut. Je suis tout à fait en faveur de ça, que la jeunesse veuille s'exprimer de fois un peu plus, de façon un peu plus impétueuse que ceux qui sont moins jeunes. Je comprends parfaitement ça. Mais j'ai l'impression qu'on assiste à autre chose et que ce n'est pas parce que l'Université du Québec à Montréal est une institution publique que ça permet de dresser des barrières, de masquer des équipements de sécurité, de n'y arriver dans bien des cas que le visage masqué pour pas être identifié. Et aussi, la question doit se poser, est-ce que ces endroits-là, avec l'espèce de mystère qu'on y fait régner, ne sont pas un peu des endroits qui sont propices à une certaine radicalisation?
Mais les gens, vous dites, les gens ont le droit de manifester. Pour vous, est-ce que c'est un droit d'ériger un campement comme ça sur un lieu public ou privé?
Ben, en fait, c'est qu'on n'est plus dans la manifestation. C'est ce que je veux exprimer. S'il y avait des étudiants dans une université qui voulaient faire une manifestation, je pense que toutes les universités seraient passablement tolérante, sans pour autant espérer des affrontements comme on en a connu il y a quelques mois à l'Université Concordia. Mais on n'est plus dans ce registre-là. On est dans le registre de gens qui veulent rester anonymes, ériger des camps, organiser des occupations, restreindre l'accès aux autres étudiants, faire une forme, parce que ce soit voulu ou pas, d'une forme d'intimidation avec, et je le crains beaucoup parce que c'est comme ça que certaines organisations travaillent, des infiltrations de militants qui, dans bien des cas, ça s'est vu aux États-Unis, ne sont pas même des étudiants de l'université en question, donc qui utilisent, qui prennent prétexte, qui parasitent une activité militante qui pourrait, a priori, comme manifestation, être saine, mais qui devient complètement autre chose.
Généralement, là, sur les campus, M. Blanchet, c'est le cas à McGill, il y a deux demandes, là, puis on a vu ça aux États-Unis aussi. D'abord, désinvestir de tout ce qui touche Israël, notamment l'équipement militaire, parce que les universités ont souvent des fonds d'investissement. L'autre demande, c'est qu'on coupe les liens académiques avec des universitaires israéliens. Là-dessus, sur le fond de leur demande, où est-ce que vous vous situez?
Ben, sur la demande des investissements en Israël, ça ne s'applique pas à l'Université du Québec à Montréal, qui n'en a pas. Mais sur la question des échanges étudiants ou des échanges de professeurs, il y a toute une différence entre condamner un régime qu'on pourrait dire qui est celui de Netanyahou présentement, et condamner la recherche, la science, l'enseignement, une nation ou un peuple. Ça me fait un peu penser au début de la guerre en Ukraine, quand il y avait eu un mouvement ici au Canada pour qu'on n'admette pas sur le territoire un prodige pianiste, jeune russe, lui-même hostile à Poutine. À un moment donné, on pose plus de questions. Tu es israélien, ben, tu n'as plus le droit d'avoir des relations avec, selon ces gens-là, leur université à eux, leur territoire à eux. Restreindre les échanges d'enseignants et d'étudiants et la circulation de la connaissance et de la recherche, ça ne sert personne.
Deuxième sujet, je veux vous entendre, M. Blanchet, sur ArriveCan. C'est un scandale qui, disons, a frappé l'imaginaire. Ça, c'est une application ArriveCan là, qui avait été payée et développée pour gérer l'arrivée des voyageurs au pays en temps de COVID. C'est passé de quelque chose comme 60 millions à des centaines de millions. Et là, Globe and Mail nous apprend qu'il y a $1 milliard qui ont été versés à des firmes liées à ArriveCan. J'imagine que vous avez dû faire le saut en lisant cette nouvelle.
J'ai vu cette nouvelle très tôt ce matin. Ça m'a un peu étonné. Parce qu'on se dit, le gouvernement prétend avoir mis en place lui-même une enquête il y a un an et demi. Et ils n'ont rien vu passer de ça jusqu'à ce que ça apparaisse dans le journal. Ça n'a aucun sens. Et là, on est parti de ArriveCan, qui devait coûter quand même, admettons, plus que $80 000, mais quand même pas 60 millions. Et après ça, une deuxième entreprise, Deliane, arrive là-dedans. Après ça, on arrive à quelque chose comme $250 millions de contrats qui reviennent à autour de 100 millions et qui aujourd'hui montent à au-delà de $1 milliard. $1 milliard. On est dans à peu près le 1000 contrats. C'est des valeurs très, très différentes. Ironiquement, le plus petit joueur serait GC Strategies et le plus gros joueur, Coradix, une entreprise dont on a assez peu entendu parler au début. Et là où ça m'inquiète encore plus, d'abord, on a un gouvernement qui n'est pas capable de gérer l'immigration, qui n'est pas capable de gérer les visas, qui n'est pas capable de faire ses propres payes. et qui veut rentrer dans les compétences des autres, en plus d'avoir engagé 109 000 nouveaux fonctionnaires, et qui distribue, qui sous-traite le rôle de l'État, quand ce n'est pas à des géants comme McKinsey, à des petites entreprises qui, bien assises dans un fauteuil avec deux employés derrière un bureau, ou deux propriétaires derrière un bureau, sous-traitent les contrats à plein de gens sur lesquels on ne sait à peu près rien, et se gardent entre 15 et 30 % de la somme dans leur poche. Si c'est bien ce dont il s'agit pour le milliard, et il faudra le découvrir, c'est entre 150 et 300 millions de dollars en bénéfices à des entreprises qui ne font que redistribuer des contrats à la place du gouvernement, avec aucun processus possible d'appel d'offres, parce que comment une entreprise avec deux employés peut avoir soumissionné pour obtenir 150 contrats, ça veut dire